Chapitre 14. Avez-vous fait votre sieste? Me demanda Leg Hunt tandis que nous émergions sur la plateforme de réception d'Istrance de la cime des arbres.
Oui.
J'espère que vos rêves ont été agréables, dit-il sans chercher à dissimuler ses sarcasmes, ni l'opinion qu'il se faisait de ceux qui prenaient le temps de dormir, alors que les décideurs et les gens d'action du gouvernement trimaient et suaient.
Pas spécialement,
grognai-je en regardant autour de moi tandis que nous grimpions le grand escalier qui conduisait au restaurant. Dans tout le Retz, où la moindre petite ville de toute province, de n'importe quel pays, sur chaque continent, semblait s'enorgueillir de posséder un restaurant 4 étoiles, où les vrais gourmets se comptaient par dizaines de millions et où les palais avaient été formés au contact de mets exotiques provenant de 200 mondes différents, la cime des arbres était quelque chose d'unique. Édifiée dans les branches supérieures d'une douzaine d'arbres géants parmi une forêt de géants, le restaurant occupait plusieurs hectares de frondaison situés à 500 mètres du sol. L'escalier que Hunt et moi étions en train de gravir avait 4 mètres de large à cet endroit. Il se perdait dans l'immensité de rameaux entrecroisés de la taille de plusieurs avenues, parmi des feuilles de la taille des voiles d'un trois-mâts et des troncs géants qui, bien qu'illuminés par les projecteurs, étaient à peine entrevus à travers les trouées du feuillage. Il semblait plus massif et plus impressionnant que la face de n'importe quelle montagne. Il y avait une 20aine de plateformes en tout, étagées par ordre ascendant de hiérarchie sociale, de richesse et de pouvoir. Particulièrement de pouvoir. Dans un univers où les milliardaires étaient choses assez communes, où un repas à la cime des arbres coûtait 1000 marks et était donc à la portée de millions de citoyens, ce qui déterminait finalement la répartition des privilèges, était le pouvoir, une monnaie d'échange qui ne s'était jamais démodée. La réception de ce soir se déroulait à l'étage le plus élevé, sur une large plateforme incrustée en bois de vorte, car le bois de muir n'est pas assez solide pour servir de charpente, avec vue sur un ciel citron affadi, sur des fêtes feuillues s'étendant jusqu'à l'horizon lointain, et sur les lumières orangées des maisons-arbres des Templiers, et de leur lieu de culte éclairé d'une douce lumière ambrée, et ombré à travers un feuillage toujours légèrement en mouvement. Il y avait une 60aine d'invités à la soirée. Je reconnus le sénateur Kolchev, dont les cheveux blancs luisaient sous les lanternes japonaises, ainsi que le conseiller Albedo, le général Morpurgo, l'amiral Singh, le président pro tempore Denzel Yat Amin, le speaker Gibbons de l'Assemblée de la Pangermie, plus une douzaine de sénateurs de Monde du Retz aussi importants que Sol Draconi Septem, Deneb Drey, Nordholm, Fuji, les deux Renaissances, Metaxas, Alliance Maui, Hébron, La Nouvelle Terre et Ixion. Il y avait en outre une poignée de petits politiciens. Spencer Reynolds, le peintre tachiste, était là, resplendissant dans sa tunique marron mauve, mais je ne vis aucun autre artiste. J'aperçus parmi la foule Tirena Wainwright Faith, l'éditrice devenue philanthrope, que l'on ne pouvait manquer de remarquer, avec sa robe faite de milliers de pétales de cuir fin comme de la soie et ses cheveux d'un noir bleuté coiffés en hauteur comme une vague sculptée. La robe était une exclusivité de Tedekai, le maquillage était théâtral mais non interactif, et son aspect physique était bien plus sobre qu'il ne l'aurait été 5 ou 6 décennies plus tôt. Je m'avançais dans sa direction en jouant des coudes sur l'avant-dernière plateforme, tandis que la foule se dirigeait vers les différents bars en attendant que le signal du dîner soit donné.
« Très cher Joseph !»
s'écria Wainwright Faith tandis que je parcourais les derniers mètres qui me séparaient d'elle.
« Comment avez-vous fait pour être invité à une soirée aussi sérieuse ?»
Je souris tout en lui offrant une coupe de champagne. La vieille douairière du monde littéraire ne me connaissait que pour m'avoir rencontré l'année passée durant son séjour d'une semaine sur Espérance, à l'occasion d'un festival des arts, et parce que j'étais l'ami de figures du Retz telles que Salmut Brévi III, Milon de Havre et Ritmet Corbet. Tirena était un dinosaure qui refusait l'extinction. Ses poignets, les paumes de ses mains et son cou auraient été, sans son maquillage, d'un bleu intense à force de subir des traitements Poulsen. Elle avait passé des dizaines d'années de sa vie à hanter les croisières interstellaires à courte escale ou à faire des siestes cryotechniques d'un coût incroyablement élevé dans des stations trop sélectes pour avoir même un nom. Le résultat était que Tirena Wingreyfaith s'agrippait de sa poigne de fer à la scène sociale depuis plus de 3 siècles et qu'elle n'était pas près de disparaître. À chaque sieste de 20 ans, sa fortune s'accroissait et sa légende grandissait.
« Vous vivez toujours sur cette ennuyeuse petite planète que j'ai visitée l'an dernier ?» me demanda-t-elle.
« Espérance, » murmurai-je, n'ignorant pas qu'elle savait exactement à quel endroit chaque artiste important de ce monde sans importance résidait. « Non, il semble que j'ai établi mes quartiers pour un bout de temps sur Tessé Carré. »
Ash Wingreyfaith fit la grimace.
J'avais vaguement conscience des regards attentifs d'une dizaine de membres de son entourage qui devaient se demander quel était cet impudent jeune homme qui s'était introduit sur leur chasse gardée.
« Quel ennui pour vous !» me dit-elle, « d'avoir à résider sur un monde de politiciens et de bureaucrates. J'espère qu'ils vous laisseront repartir bientôt. »
Je levai mon verre en guise de toast. « Il y a une chose que je voudrais vous demander, » lui dis-je. « Vous étiez bien l'éditrice de Martin Silenus. » La douairière abaissa son verre et me fixa d'un regard glacé. L'espace d'une seconde, j'imaginais cette femme et Mayna Gladstone aux prises dans un combat où leur volonté s'affronterait. Frissonnant à cette pensée, j'attendis la réponse.
« Mon cher ami, » murmura-t-elle, « mais c'est de l'histoire ancienne. Pourquoi encombrer votre jeune esprit de telles broutilles préhistoriques ?»«
Je m'intéresse à Silenus, ou plus précisément à sa poésie. J'étais seulement curieux de savoir si vous étiez toujours en contact avec lui.
« Joseph, Joseph, Joseph !»
me réprimanda gentiment Ash Wingreyfaith.
« Il y a des dizaines d'années que personne n'a entendu parler de ce pauvre Martin. Ce serait une ruine, de toute manière !»
Je m'abstins de lui faire remarquer que le poète était beaucoup plus jeune qu'elle à l'époque où elle l'éditait.
« Mais c'est étrange que vous en parliez, » poursuivit-elle. Mon ancienne maison, Transverse, m'a fait savoir récemment qu'elle envisageait de rééditer une partie de son œuvre. J'ignore si ses héritiers ont été contactés.
« La Terre qui meurt ?» demandai-je, faisant allusion à la série nostalgique de l'ancienne Terre qui s'était si bien vendue en son temps.
« Non, c'est curieux, mais je crois qu'il s'agit plutôt des Cantos. »
Avec un petit rire, elle sortit un joint de cannabis fiché au bout d'un long fume-cigarette en bois d'ébène. L'un des membres de sa cour se précipita pour lui offrir du feu.
C'est un drôle de choix, poursuivit-elle, quand on pense que personne n'a jamais lu ses cantos lorsque le pauvre Martin était en vie. Il est vrai que rien ne sert une carrière d'artiste mieux que la mort et l'obscurité. Je l'ai toujours dit.
Elle émit de nouveau un rire qui ressemblait au bruit répété d'un burin attaquant une roche très dure. Une demi-douzaine de personnes autour d'elle rirent à leur tour.
« Vous devriez vous assurer qu'il est vraiment mort, » déclarai-je.
« Les cantos se liraient mieux s'ils étaient complets. » Tirena Wingreyfaith me regarda d'un drôle d'air tandis que le carillon annonçant le dîner se faisait entendre dans les frondaisons. Spencer Reynolds offrit son bras à la douairière. Les invités commencèrent à se diriger vers le dernier escalier qui conduisait aux étoiles. Je finis de boire mon champagne, posai la coupe vide sur une balustrade et montait rejoindre le troupeau. La présidente et son entourage arrivèrent au moment où nous finissions de prendre place. Elle fit un bref discours, probablement le 20e de sa journée, sans compter celui du matin devant le Sénat et le Retz. La raison première du banquet de ce soir était de soutenir une campagne de financement du Fonds social d'Armagast, mais elle aborda vite le sujet de la guerre et de la nécessité d'unir tous les efforts du Retz pour parvenir à l'efficacité la plus totale. Je laissais errer mon regard tandis qu'elle parlait en direction du ciel citron qui avait pris une teinte safranée, puis s'était transformé en un crépuscule tropical si riche qu'on aurait dit qu'un épais rideau bleu foncé s'était refermé sur lui. Le bosquet de Dieu possédait 6 petites lunes, dont 5 étaient visibles sous ses latitudes. 4 d'entre elles étaient en train de se déplacer dans le ciel tandis que je voyais pointer les étoiles. L'air était riche en oxygène, à un point presque enivrant, et embaumé de lourdes senteurs végétales qui me rappelaient ma visite matinale sur Hyperion. Mais le bosquet de Dieu n'acceptait aucun VEM, aucun glisseur, aucune machine volante en général. Les émanations pétrochimiques, les traînées des cellules de fusion n'avaient jamais pollué ce ciel. L'absence de villes, de routes et d'éclairage électrique rendait les étoiles capables de rivaliser avec les lanternes japonaises et les globes bioluminescents qui pendaient aux branches et aux poutres. Une petite brise s'était levée après le coucher du soleil. L'arbre tout entier oscillait maintenant. La plateforme bougeait doucement, comme le pont d'un navire par mer calme. Les poutres en bois de vorte ou de muir craquaient faiblement à chaque oscillation. J'aperçus des lumières qui brillaient à d'autres cimes. Je savais que la plupart venaient des quelques milliers de pièces supplémentaires louées par les Templiers aux Rétiens qui disposaient d'une résidence multiplanétaire équipée de distances et du million de marques nécessaires à un tel caprice. Les Templiers ne se salissaient pas les mains à gérer de telles opérations immobilières. Ils se contentaient d'édicter des conditions écologiques draconiennes et incontournables et empochaient les centaines de millions de marques que cela rapportait. Je songeais à leur vaisseau arbre interstellaire, l'Yggdrasil, qui faisait 1 kilomètre de long et qui était issu de la forêt la plus sacrée de la planète. Il était propulsé par des générateurs de singularité Hawking et protégé par les écrans de force et les ergues les plus complexes qu'un vaisseau pût produire. Inexplicablement, les Templiers avaient accepté de faire participer l'Yggdrasil à une mission d'évacuation qui servait en réalité de couverture aux unités d'intervention de la force. Comme cela arrive souvent lorsque des objets de prix sont exposés au danger, l'Yggdrasil fut détruit alors qu'il était encore en orbite autour d'Hyperion, par une attaque extro ou par une autre force encore indéterminée. Comment avaient réagi les Templiers ? Quel objectif avait bien pu leur faire risquer l'un des 4 vaisseaux-arbres existants ? Pourquoi le commandant de l'Yggdrasil, Het Mastin, avait-il été choisi pour figurer parmi les 7 pèlerins Grytchtek ? Pour quelle raison avait-il disparu avant l'arrivée du chariot avant, au pied de la chaîne bridée, sur le rivage de la mer des Hautes Herbes ? Il y avait beaucoup trop de questions sans réponse, et la guerre n'avait que quelques jours d'existence. Mayna Gladstone, après avoir mis un terme à ses exhortations, nous souhaita un excellent dîner. J'applaudis poliment en même temps que les autres, puis je fis signe à un garçon de remplir mon verre de vin. L'entrée consistait en une salade en pierre que j'attaquai avec enthousiasme. Je n'avais rien mangé depuis le déjeuner. Dégustant une touffe de cresson, je me souvins du gouverneur général Theo Lane en train de manger ses kippers et son bacon tandis que la pluie tombait doucement du ciel lapis d'Hyperion. Tout cela n'était-il qu'un rêve ?
Que pensez-vous de la guerre, H. Severne ?
Me demanda Reynolds, le peintre tachiste. Il était assis de l'autre côté de la table, à plusieurs sièges de moi, mais sa voix portait loin. Je vis Irena hausser un sourcil 3 sièges plus loin sur ma droite. Je bus une gorgée de vin avant de répondre. Il était très bon, mais rien dans tout le Retz ne pouvait égaler le souvenir que j'avais du Bordeaux français.
Que peut-on penser d'une guerre ?
Répliquai-je.
La guerre n'appelle pas un jugement, mais une réaction de survie.
Je ne pense pas tout à fait comme vous, me dit Reynolds. Comme tant d'autres choses que l'humanité a redéfinies depuis l'Égypte, la guerre, me semble-t-il, est en passe de devenir une forme d'art.
Une forme d'art !
Soupira une femme aux cheveux châtains coupés courts.
Quel concept véritablement fascinant, H. Reynolds !
L'infosphère m'informa qu'il s'agissait de Sudette Shire, la femme du sénateur Gabriel Féodor Kolchev, qui représentait elle aussi une force politique non négligeable. Elle portait une robe en lamé bleu et or, et son expression était celle d'un ravissement intense. Spencer Reynolds était d'une taille plutôt petite comparée à la moyenne du Retz, mais c'était un bel homme aux cheveux bouclés coupés courts, à la peau apparemment bronzée par un soleil généreux, mais légèrement dorée en réalité, à la peinture corporelle. Ses vêtements et ses attributs aérénistes étaient d'un luxe voyant sans être tapageur, et son attitude dénotait une confiance sereine que beaucoup rêvaient d'afficher et que peu parvenaient à atteindre. Sa vivacité intellectuelle était visible de prime abord, son intérêt pour les autres sincère, et son sens de l'humour légendaire. Je détestais aussitôt cet enfant de putain.
« Tout est une forme d'art, messieurs. » nous dit-il en souriant. « Tout est appelé à en devenir une, en tout cas. Nous avons passé le stade où la guerre n'est qu'un moyen barbare d'imposer une politique par d'autres moyens.
Une diplomatie !»
intervint le général Morpurgo sur sa gauche.
« Je vous demande pardon, général ?»«
Une diplomatie !»
répéta ce dernier.
« Et il ne s'agit pas de l'imposer, mais de la continuer. »
Spencer Reynolds inclina courtoisement la tête et fit un léger geste de torsion de la main. Sudette Shire et Tirena se mirent à rire doucement. L'image du conseiller Albedo se pencha en avant sur ma gauche en disant
« Karl von Clausewitz, je crois. »
Je jetai un coup d'œil au conseiller. Une unité de projection portable, pas plus grosse que les somptueuses diaphanes qui voltaient entre les branches, flottait à 2 mètres au-dessus de lui, un peu en arrière. L'illusion n'était pas aussi parfaite qu'à la maison du gouvernement, mais c'était de loin supérieur à tous les holos privés que j'avais eu l'occasion de voir. Le général Morpurgo inclina à son tour la tête en direction du représentant du technocentre.
« Quoi qu'il en soit, » déclara Sudette Shire, « c'est l'idée de la guerre en tant que forme d'art qui est brillante. »
J'avais achevé ma salade. Un serviteur humain fit aussitôt disparaître mon assiette et la remplaça par une autre contenant un potage gris foncé dont je fus incapable de reconnaître la nature. Cela avait un goût fumé, un léger parfum de cannelle et de mer, et c'était délicieux.
« La guerre est un médium parfait pour un artiste, »
fit Reynolds en brandissant sa fourchette comme un bâton.
« Et pas seulement pour les artisans qui ont étudié cette prétendue science, »
ajouta-t-il en se tournant avec un sourire vers Morpurgo et un autre officier de la force assis à la droite du général, comme pour les exclure du lot.
« Seul quelqu'un qui est prêt à voir plus loin que les limites bureaucratiques de la tactique et de la stratégie et que la volonté archaïque de gagner peut apporter la touche d'un véritable artiste dans un médium aussi difficile que la guerre moderne.
« La volonté archaïque de gagner ?»
répéta l'officier de la force. L'infosphère m'apprit qu'il s'agissait du commandant William Ajunta Lee, héros de la marine dans la guerre d'Alliance Maui. Il paraissait jeune, 55 ans environ, et son grade suggérait que cette jeunesse était plutôt due à ses années de voyage interstellaire qu'à des traitements Poulsen.
« J'ai bien dit archaïque, oui !»
fit Reynolds en riant.
« Un sculpteur cherche-t-il à vaincre l'argile ? Un peintre lance-t-il une offensive contre sa toile ? Au demeurant, peut-on dire qu'un aigle ou un épervier grimpe à l'assaut des cieux ?»«
Il n'y a plus d'aigle !»
grogna Morpurgo.
Ils auraient peut-être mieux fait de s'emparer des cieux. Ils les ont trahis. »
Reynolds se tourna de nouveau vers moi. Un garçon prit les restes de sa salade et lui apporta le même potage que celui que j'étais en train de finir.
« H. Severne, vous êtes un artiste, un illustrateur tout au moins. Aidez-moi donc à expliquer à ces gens ce que je veux dire. »
« J'ignore ce que vous voulez dire. »
En attendant le plat suivant, je donnai 3 petits coups sur mon verre vide. Il fut rempli aussitôt. En tête de table, à 10 mètres de là, j'entendis les rires de Gladstone, de Hunt et de plusieurs membres du Fonds social. Spencer Reynolds ne parut pas du tout surpris de mon ignorance.
« Si nous voulons que notre race parvienne au Satori authentique, dit-il, et si nous devons atteindre le niveau supérieur de conscience et d'évolution que tant de nos philosophies revendiquent, toutes les facettes de l'activité humaine doivent devenir des efforts conscients dirigés vers l'art. »
Le général Morpurgo but une longue gorgée de vin et grogna.
« Y compris les fonctions corporelles d'alimentation, de reproduction et d'élimination.
Particulièrement ces fonctions-là !»
s'exclama Reynolds en écartant les mains pour prendre la longue table de banquet comme exemple.
« Ce que vous voyez ici, c'est le besoin animal de transformer des composés organiques morts en énergie, l'acte de base de dévorer d'autres vies. Mais la cime des arbres a transformé ce besoin en art. Et la reproduction a depuis longtemps remplacé ses origines animales grossières par l'essence de la danse chez les êtres humains civilisés. Quant à l'élimination, elle doit se transformer, elle aussi, en pure poésie.
J'essaierai de m'en souvenir la prochaine fois que j'aurai envie de chier. »
fit Morpurgo. Tirena Wingriffe fémit un petit rire et se tourna vers l'homme vêtu de noir et de pourpre qui était assis à sa droite.
Monseigneur, votre église, catholique, je crois, selon les cultes anciens chrétiens, n'a-t-elle pas quelques jolies doctrines sur l'évolution de l'homme vers un statut un peu plus exaltant ?
Tout le monde se tourna vers le petit homme tranquille à la robe noire et au drôle de petit chapeau. Monseigneur Édouard, représentant de la secte presque oubliée des anciens chrétiens, aujourd'hui confiné à la planète de Passem et à quelques mondes coloniaux, ne figurait sur la liste des convives que parce qu'il jouait un rôle actif dans la campagne de financement du Fonds social d'Armagast. Jusqu'à présent, il s'était contenté de garder discrètement le nez dans son potage. Il leva d'un air surpris un visage parcheminé par les ans, le soleil et les soucis.
« En effet, dit-il, l'enseignement de Saint-Élien fait état de l'évolution vers un point oméga. »
« Ce point oméga ressemble-t-il à notre concept zen gnostique du satori pratique ?»
demanda Sudet Shire. Monseigneur Édouard contempla songeusement son potage comme s'il était plus important que la conversation en cours.
« Pas vraiment, dit-il. Saint-Éliard estimait que toute vie, à chaque niveau de conscience organique, faisait partie d'une évolution planifiée vers la convergence ultime avec Dieu. « Son courant de pensée, ajouta-t-il avec un léger froncement de sourcils, a considérablement évolué depuis 8 siècles, mais le fil commun est que nous considérons Jésus-Christ comme l'exemple incarné de ce que pourrait être la conscience ultime au plan humain. »
Je m'éclaircis la voix. « Est-ce que le jésuite Paul Duret n'a pas écrit assez abondamment sur cette question ? » demandai-je. Monseigneur Édouard se pencha en avant pour me voir malgré Tiréna. Je lus une grande surprise sur son intéressant visage.
« Mais bien sûr, me dit-il, je suis un peu étonné, je dois vous l'avouer, que vous ayez connaissance des travaux du père Duret. »
Je soutins le regard perçant de l'homme qui, tout en exilant le jésuite sur Hyperion pour apostasie, était demeuré son ami. Je songeais à un autre exilé du Nouveau Vatican, le jeune Lénard Hoyt, gisant en ce moment dans un tombeau du temps pendant que les parasites cruciformes qui portaient l'ADN muté de Duret et le sien accomplissaient leur œuvre de résurrection sinistre. Comment cette abomination du cruciforme cadrait-elle avec les vues de Teilhard et de Duret concernant une inévitable et bienveillante évolution vers le divin ? Spencer Reynolds, qui se disait visiblement que la conversation avait dévié trop longtemps hors de son camp, déclara d'une voix grave, assez sonore pour noyer toutes les autres conversations de cette moitié de la table, « Le fait est que la guerre, au même titre que la religion et que toutes les autres formes d'activité humaine qui captent et canalisent les énergies à une telle échelle, devrait abandonner sa littéralité de « Ding an sich » qui s'exprime généralement à travers la fascination servile d'un objectif, et s'intéresser plutôt à la dimension artistique de son œuvre propre. Mon tout dernier projet,
et quel est l'objectif de votre église, monseigneur ?
Demanda Tiréna Wingriff-Faith, volant le ballon à Reynolds sans élever la voix ni quitter le prélat des yeux.
Aider l'humanité à connaître et à servir Dieu, déclara le petit homme en finissant son potage avec un bruit de succion impressionnant.
« J'ai entendu dire, monsieur le conseiller, continua-t-il en se tournant vers la projection d'Albedo, que le technocentre poursuivait un objectif curieusement analogue. Est-il exact que vous soyez en train d'essayer de fabriquer votre propre Dieu ?»
Le sourire d'Albedo était parfaitement calculé pour être amical sans offrir aucun signe de condescendance.
« Ce n'est pas un secret, dit-il. Certains éléments du centre travaillent, depuis des siècles, à l'établissement d'un modèle théorique d'intelligence artificielle qui dépasse de loin nos pauvres capacités intellectuelles. Je ne crois pas que l'on puisse parler de création d'un dieu, monseigneur. Il s'agit plutôt d'un programme de recherche destiné à explorer les voies ouvertes par votre Saint-Éliard et par le Père Duret. « Mais vous estimez possible de régler votre propre évolution sur cette conscience supérieure ?»
demanda le commandant Lee, le héros de la flotte, qui avait écouté jusque-là avec attention.
Vous pensez que l'on peut mettre au point une intelligence ultime de la même manière que nous avons conçu vos ancêtres rudimentaires à base de silicium et de micropuces ?
Albedo se mit à rire.
Rien d'aussi simple ou d'aussi grandiose. J'en ai bien peur. Et lorsque vous dites « vous, commandant », permettez-moi de vous rappeler que je ne suis qu'une modeste personnalité parmi un assemblage d'intelligences non moins diverses que les humains qui peuplent cette planète, et même le Reds tout entier. Le technocentre n'a rien de monolithique. Il comporte autant de factions, de philosophies, de croyances, de théories, et même de religions, pourrait-on dire, que n'importe laquelle de vos communautés.
Il noua ses mains comme s'il pensait à une bonne plaisanterie et poursuivit.
Je préfère, pour ma part, songer à cette quête de l'intelligence ultime comme à un passe-temps plutôt qu'à une religion. Un peu comme le navire dans la bouteille, commandant, ou bien une discussion sur le nombre d'anges qui pourraient tenir sur une tête d'épingle, monseigneur.
Tout le monde eut un rire poli, à l'exception de Reynolds qui faisait involontairement la moue, sans doute en cherchant le moyen de reprendre le contrôle de la conversation. Que pensez-vous des bruits qui courent selon lesquels le technocentre aurait construit une réplique parfaite de l'ancienne Terre afin de faciliter la mise au point de cette intelligence ultime ? Demandai-je, stupéfait moi-même d'avoir posé cette question. Le sourire d'Albedo ne vacilla pas. Son regard amical demeura fixé sur moi, mais il y eut une nanoseconde où quelque chose passa dans la projection. De l'étonnement, de la colère, de l'amusement, je n'en ai pas la moindre idée. Il aurait pu communiquer en privé avec moi pendant l'éternité de cette seconde, me transmettre d'énormes quantités de données par l'intermédiaire de mon propre cordon ombilical avec le technocentre, ou par les corridors invisibles que nous nous sommes réservés dans le dédale de l'infosphère que les humains croient beaucoup plus simple qu'en réalité. Il aurait pu aussi bien me tuer, en faisant valoir la supériorité de son grade sur celui des dieux du technocentre qui présidait aux destinées d'une modeste conscience comme la mienne. C'eût été pour lui aussi simple que pour le directeur d'un institut de recherche de demander à ses laborantins d'anesthésier de manière permanente une souris de laboratoire rétive. Les conversations s'étaient arrêtées d'un bout à l'autre de la table. Même Mayna Gladstone et son entourage de méga-personnalités regardèrent de notre côté tandis que le conseiller Albedo accentuait son sourire en répliquant
« Quelle rumeur étonnamment charmante !»« Et pourriez-vous nous expliquer, H.C. Verne, comment on fait, et particulièrement, comment pourrait faire une organisation telle que le technocentre, que vos propres commentateurs ont qualifié de « bande de cerveaux désincarnés » et de programmes aberrants qui se sont échappés des circuits et passent la plupart de leur temps à se gratter leur nombril intellectuel inexistant, pour construire une réplique parfaite de l'ancienne Terre.
Je regardais la projection, et même à travers elle, en m'avisant pour la première fois que le couvert et les mets en faisaient partie. Le conseiller avait continué de manger durant la discussion.
Croyez-vous qu'il soit venu à l'esprit des propagateurs de cette rumeur ?
Continua-t-il d'un air profondément amusé,
qu'une réplique parfaite de l'ancienne Terre ne serait pas autre chose que l'ancienne Terre elle-même pour le meilleur et pour le pire ? En quoi pourrait-elle donc servir à explorer les possibilités théoriques d'une matrice d'intelligence artificielle améliorée ?
Je ne répondis pas. Un silence inconfortable tomba sur cette partie de la table. Monseigneur Édouard se racla la gorge avant de murmurer
« Il semblerait qu'une société capable de fabriquer la réplique exacte d'un monde, et particulièrement celle d'un monde détruit depuis 400 ans, n'ait aucun besoin de chercher Dieu. Elle serait Dieu. » « Précisément !»
fit Albedo en éclatant de rire.
« C'est une rumeur insensée, mais délicieuse, absolument délicieuse !»
Des rires de soulagement emplirent le trou de silence. Spencer Reynolds commença à parler de son fameux projet de synchronisation des suicides du haut d'un pont sur une vingtaine de mondes, tandis que Tirena Wingriffith lui volait une fois de plus l'attention générale en passant un bras autour de Monseigneur Edward pour l'inviter à prolonger la soirée par un bain de minuit en simple appareil dans la piscine de son domaine flottant de Mare Infinitus. Je vis que le conseiller Albedo gardait les yeux fixés sur moi, me tournait à temps pour apercevoir les regards inquisiteurs que me jetaient Leigh Hunt et Gladstone, puis ne prêtait plus attention qu'au garçon qui apportait le plat principal sur des plateaux d'argent. Le festin fut vraiment excellent.